À 8 heures du matin, quand le surveillant des pistoles entra dans la chambre où se trouvait Jacques Collin, il le vit pâle et calme, comme un homme redevenu fort par un violent parti pris. « Voici l'heure d'aller au préau, » dit le porte-clés. « Vous êtes enfermé depuis 3 jours. Si vous voulez prendre l'air et marcher, vous le pouvez. » Jacques Collin, tout à ses pensées absorbantes, ne prenant aucun intérêt à lui-même, se regardant comme un vêtement sans corps, comme un haillon, ne soupçonna pas le piège que lui tendait Bibi Lupin, ni l'importance de son entrée au préau. Le malheureux sortit machinalement, enfila le corridor qui longe les cabanons, pratiqué dans les corniches des magnifiques arcades du palais des rois de France, et sur lesquelles s'appuie la galerie dite de Saint-Louis, par où l'on va maintenant aux différentes dépendances de la cour de cassation. Ce corridor rejoint celui des pistoles, et, circonstance digne de remarque, la chambre où fut détenu Louvel, l'un des plus fameux régicides, est celle située à l'angle droit, formée par le coude des deux corridors. Sous le joli cabinet qui occupe la tour Bombec, se trouve un escalier en colimaçon, auquel aboutit ce sombre corridor, et par où les détenus logés dans les pistoles ou dans les cabanons vont et viennent pour se rendre au préau. Tous les détenus, les accusés, qui doivent comparaître en cour d'assises, et ceux qui y ont comparu, les prévenus qui ne sont plus au secret, tous les prisonniers de la conciergerie, enfin, se promènent dans cet étroit espace entièrement pavé, pendant quelques heures de la journée et surtout le matin de bonne heure en été. Ce préau, l'antichambre de l'échafaud ou du bagne, y aboutit d'un bout, et de l'autre, il tient à la société par le gendarme, par le cabinet du juge d'instruction ou par la cour d'assises. Aussi est-ce plus glacial à voir que l'échafaud. L'échafaud peut devenir un piédestal pour aller au ciel. Mais le préau, c'est toutes les infamies de la terre réunies et sans issue. Que ce soit le préau de la Force ou celui de Poissy, ceux de Melun ou de Sainte-Pélagie, un préau est un préau. Les mêmes faits s'y reproduisent identiquement, à la couleur près des murailles, à la hauteur ou à l'espace. Aussi les études de mœurs mentiraient-elles à leur titre si la description la plus exacte de ce pandémonium parisien ne se trouvait ici. Sous les puissantes voûtes qui soutiennent la salle des audiences de la cour de cassation, il existe, à la 4e arcade, une pierre qui servait, dit-on, à Saint-Louis pour distribuer ses aumônes, et qui, de nos jours, sert de table pour vendre quelques comestibles aux détenus. Aussi, dès que le préau s'ouvre pour les prisonniers, tous vont-ils se grouper autour de cette pierre à friandises de détenus, l'eau-de-vie, le rhum, etc. Les deux premières arcades de ce côté du préau, qui fait face à la magnifique galerie byzantine, seul vestige de l'élégance du palais de Saint-Louis, sont prises par un parloir, où confèrent les avocats et les accusés, et où les prisonniers parviennent au moyen d'un guichet formidable, composé d'une double voie tracée par des barreaux énormes et comprise dans l'espace de la 3e arcade. Ce double chemin ressemble à ces rues momentanément créées à la porte des théâtres par des barrières pour contenir la queue lors des grands succès. Ce parloir, situé au bout de l'immense salle du guichet actuel de la conciergerie, éclairé sur le préau par des hottes, vient d'être mis à jour par des châssis vitrés du côté du guichet, en sorte qu'on y surveille les avocats en conférence avec leurs clients. Cette innovation a été nécessitée par les trop fortes séductions que de jolies femmes exerçaient sur leurs défenseurs. On ne sait plus où s'arrêtera la morale. Ces précautions ressemblent à ces examens de conscience tout faits, où les imaginations pures se dépravent en réfléchissant à des monstruosités ignorées. Dans ce parloir ont également lieu les entrevues des parents et des amis à qui la police permet de voir des prisonniers, accusés ou détenus. On doit maintenant comprendre ce qu'est le préau pour les 200 prisonniers de la conciergerie. C'est leur jardin, un jardin sans arbres, ni terre, ni fleurs, un préau enfin. Les annexes du parloir et de la pierre de Saint-Louis, sur laquelle se distribuent les comestibles et les liquides autorisés, constituent l'unique communication possible avec le monde extérieur. Les moments passés au préau sont les seules pendant lesquelles le prisonnier se trouve à l'air et en compagnie. Néanmoins, dans les autres prisons, les autres détenus sont réunis dans les ateliers du travail. Mais, à la conciergerie, on ne peut se livrer à aucune occupation à moins d'être à la pistole. Là, le drame de la cour d'assises préoccupe d'ailleurs tous les esprits, puisqu'on ne vient là que pour subir ou l'instruction ou le jugement. Cette cour présente un affreux spectacle. On ne peut se le figurer. Il faut le voir ou l'avoir vu. D'abord, la réunion, sur un espace de 40 mètres de long sur 30 de large, d'une centaine d'accusés ou de prévenus, ne constitue pas l'élite de la société. Ces misérables, qui, pour la plupart, appartiennent aux plus basses classes, sont mal vêtus. Leurs physionomies sont ignobles ou horribles. Car un criminel venu des sphères sociales supérieures est une exception heureusement assez rare. La concussion, le faux ou la faillite frauduleuse, seuls crimes qui peuvent amener là des gens comme il faut, ont d'ailleurs le privilège de la pistole, et l'accusé ne quitte alors presque jamais sa cellule. Ce lieu de promenade, encadré par de beaux et formidables murs noirâtres, par une colonnade partagée en cabanons, par une fortification du côté du quai, par les cellules grillagées de la pistole au nord, gardé par des surveillants attentifs, occupé par un troupeau de criminels ignobles et se défiant tous les uns des autres, attriste déjà par les dispositions locales. Mais il effraie bientôt lorsque vous vous y voyez le centre de tous ces regards pleins de haine, de curiosité, de désespoir, en face de ces êtres déshonorés. Aucune joie. Tout est sombre, les lieux et les hommes. Tout est muet, les murs et les consciences. Tout est péril pour ces malheureux. Ils n'osent, à moins d'une amitié sinistre comme le bagne dont elle est le produit, se fier les uns aux autres. La police qui plane sur eux empoisonne pour eux l'atmosphère et corrompt tout, jusqu'au serrement de main de deux coupables intimes. Un criminel qui rencontre là son meilleur camarade ignore si ce dernier ne s'est pas repenti, s'il n'a pas fait des aveux dans l'intérêt de sa vie. Ce défaut de sécurité, cette crainte du mouton, gâte la liberté déjà si mensongère du préau. En argot de prison, le mouton est un mouchard qui paraît être sous le poids d'une méchante affaire et dont l'habileté proverbiale consiste à se faire prendre pour un ami. Le mot « ami » signifie en argot un voleur émérite, un voleur consommé qui, depuis longtemps, a rompu avec la société, qui veut rester voleur toute sa vie et qui demeure fidèle quand même aux lois de la haute pègre. Le crime et la folie ont quelques similitudes. Voir les prisonniers de la conciergerie au préau ou voir des fous dans le jardin d'une maison de santé, c'est une même chose. Les uns et les autres se promènent en s'évitant, se jettent des regards au moins singuliers, atroces, selon leurs pensées du moment, jamais gais ni sérieux, car ils se connaissent ou ils se craignent. L'attente d'une condamnation, les remords, les anxiétés, donnent aux promeneurs du préau l'air inquiet et hagard des fous. Les criminels consommés ont seuls une assurance qui ressemble à la tranquillité d'une vie honnête, à la sincérité d'une conscience pure. L'homme des classes moyennes étant là l'exception, et la honte retenant dans leurs cellules ce que le crime y envoie, les habitués du préau sont généralement mis comme les gens de la classe ouvrière. La blouse, le bourgeron, la veste de velours domine. Ces costumes grossiers ou sales, en harmonie avec les physionomies communes ou sinistres, avec les manières brutales, un peu domptées néanmoins par les pensées tristes dont sont saisis les prisonniers, tout, jusqu'au silence du lieu, contribue à frapper de terreur ou de dégoût le rare visiteur, à qui de hautes protections ont valu le privilège peu prodigué d'étudier la conciergerie. De même que la vue d'un cabinet d'anatomie où les maladies infâmes sont figurées en cire, rend chaste et inspire de saintes et nobles amours au jeune homme qu'on y mène, de même la vue de la conciergerie et l'aspect du préau, meublé de ses hôtes dévoués au bagne, à l'échafaud, à une peine infamante quelconque, donne la crainte de la justice humaine à ceux qui pourraient ne pas craindre la justice divine, dont la voix parle si haut dans la conscience, et ils en sortent honnêtes gens pour longtemps. Les promeneurs qui se trouvaient au préau quand Jacques Collin y descendit, devant être les acteurs d'une scène capitale dans la vie de Trompe-la-Mort, il n'est pas indifférent de peindre quelques-unes des principales figures de cette terrible assemblée. Là, comme partout où des hommes sont rassemblés, là, comme au collège, règne la force physique et la force morale. Là donc, comme dans les bagnes, l'aristocratie et la criminalité. Celui dont la tête est en jeu prime tous les autres. Le préau, comme on le pense, est une école de droit criminel. On l'y professe infiniment mieux qu'à la place du Panthéon. La plaisanterie périodique consiste à répéter le drame de la cour d'assises, à constituer un président, un jury, un ministère public, un avocat, et juger le procès. Cette horrible farce se joue presque toujours à l'occasion des crimes célèbres. À cette époque, une grande cause criminelle était à l'ordre du jour des assises. L'affreux assassinat commis sur M. et Mme Crottat, anciens fermiers, père et mère du notaire, qui gardaient chez eux, comme cette malheureuse affaire l'a prouvé, 800 000 francs en or. L'un des auteurs de ce double assassinat était le célèbre Dan Pont, dit La Pouraille, forçat libéré, qui depuis 5 ans avait échappé aux recherches les plus actives de la police, à la faveur de 7 ou 8 noms différents. Les déguisements de ce scélérat étaient si parfaits qu'il avait subi 2 ans de prison sous le nom de Delsouk, un de ses élèves, voleur célèbre qui ne dépassait jamais dans les affaires la compétence du tribunal correctionnel. La Pouraille en était, depuis sa sortie du bagne, à son 3e assassinat. La certitude d'une condamnation à mort rendait cet accusé, non moins que sa fortune présumée, l'objet de la terreur et de l'admiration des prisonniers, car pas un liard des fonds volés ne se retrouvait. On peut encore, malgré les événements de juillet 1830, se rappeler l'effroi que causa dans Paris ce coup hardi, comparable au vol des médailles de la bibliothèque pour son importance. Car la malheureuse tendance de notre temps à tout chiffrer rend un assassinat d'autant plus frappant que la somme volée est plus considérable. La Pouraille, petit homme sec et maigre, à visage de fouine, âgé de 45 ans, l'une des célébrités des trois bagnes, qu'il avait habité successivement dès l'âge de 19 ans, connaissait intimement Jacques Collin. Il en va savoir comment et pourquoi. Transféré de la force à la conciergerie depuis 24 heures avec la Pouraille, 2 autres forçats avaient reconnu sur le champ et fait reconnaître au préau cette royauté sinistre de l'ami promis à l'échafaud. L'un de ces forçats, un libéré nommé Sélénaire, surnommé l'Auvergnat, le père Rallot, le rouleur, et qui, dans la société que le bagne appelle la haute pègre, avait nom fil de soie, sobriquet dû à l'adresse avec laquelle il échappait au péril du métier, était un des anciens affidés de Trompe-la-Mort. Trompe-la-Mort soupçonnait tellement fil de soie de jouer un double rôle, d'être à la fois dans les conseils de la haute pègre et l'un des entretenus de la police, qu'il lui avait, voyez le père Goriot, attribué son arrestation dans la maison Vauquer en 1819. Sélérier, qu'il faut appeler fil de soie, de même que Dan Pont se nommera la Pouraille, déjà sous le coup d'une rupture de ban, était impliqué dans des vols qualifiés mais sans une goutte de sang répandu, qui devait le faire réintégrer au moins pour 20 ans au bagne. L'autre forçat, nommé Rigançon, formait avec sa concubine, appelée la Biffe, un des plus redoutables ménages de la haute pègre. Rigançon, en délicatesse avec la justice dès l'âge le plus tendre, avait pour surnom le Biffon. Le Biffon était le mâle de la Biffe, car il n'y a rien de sacré pour la haute pègre. Ces sauvages ne respectent ni la loi, ni la religion, rien, pas même l'histoire naturelle, dont la sainte nomenclature est, comme on le voit, parodiée par eux. Une digression est ici nécessaire, car l'entrée de Jacques Collin au préau, son apparition au milieu de ses ennemis, si bien ménagée par Bibi Lupin et par le juge d'instruction, les scènes curieuses qui devaient s'en suivre, tout en serait inadmissible et incompréhensible sans quelques explications sur le monde des voleurs et des bagnes, sur ses lois, sur ses mœurs, et surtout sur son langage, dont l'affreuse poésie est indispensable dans cette partie du récit. Donc, avant tout, un mot sur la langue des Grecs, des filous, des voleurs et des assassins, nommés l'argot, et que la littérature a dans ces derniers temps employé avec tant de succès que plus d'un mot de cet étrange vocabulaire a passé sur les lèvres roses des jeunes femmes, a retenti sous des lambris dorés, a réjoui les princes, dont plus d'un a pu s'avouer floué. Disons-le, peut-être à l'étonnement de beaucoup de gens, il n'est pas de langue plus énergique, plus colorée que celle de ce monde souterrain, qui, depuis l'origine des empires à capitale, s'agite dans les caves, dans les sentines, dans le troisième dessous des sociétés, pour emprunter à l'art dramatique une expression vive et saisissante. Le monde n'est-il pas un théâtre ? Le troisième dessous est la dernière cave pratiquée sous les planches de l'opéra pour en receler les machines, les machinistes, la rampe, les apparitions, les diables bleus que vomit l'enfer, etc. Chaque mot de ce langage est une image brutale, ingénieuse ou terrible. Une culotte est une montante. N'expliquons pas ceci. En argot, on ne dort pas, on pionce. Remarquez avec quelle énergie ce verbe exprime le sommeil particulier à la bête traquée, fatiguée, défiante, appelée voleur, et qui, dès qu'elle est en sûreté, tombe et roule dans les abîmes d'un sommeil profond et nécessaire, sous les puissantes ailes du soupçon planant toujours sur elle. Affreux sommeil, semblable à celui de l'animal sauvage qui dort, qui ronfle, et dont néanmoins les oreilles veillent doublées de prudence. Tout est farouche dans cet idiome. Les syllabes qui commencent ou qui finissent les mots sont âpres et détonnent singulièrement. Une femme est une largue, et quelle poésie, la paille et la plume de Beauce. Le mot minuit est rendu par cette périphrase, 12 plombes crosses. Ça ne donne-t-il pas le frisson ? Rincer une cabriole veut dire dévaliser une chambre. Qu'est-ce que l'expression se coucher comparée à se piocer, revêtir une autre peau ? Quelle vivacité d'image ! Jouer des dominos signifie manger. Comment mangent les gens poursuivis ? L'argot va toujours, d'ailleurs. Il suit la civilisation. Il la talonne, il s'enrichit d'expressions nouvelles à chaque nouvelle invention. La pomme de terre, créée et mise au jour par Louis XVI et Parmentier, est aussitôt saluée par l'argot d'oranges à cochons. On invente les billets de banque, le bagne les appelle des fafios garatés, du nom de Gara, le caissier qui les signe. Fafio, n'entendez-vous pas le bruissement du papier de soie ? Le billet de 1 000 francs est un fafio mâle, le billet de 500 un fafio femelle. Les forçats baptiseront, attendez-vous-y, les billets de 100 ou de 250 francs de quelque nom bizarre. En 1790, Guillotin trouve, dans l'intérêt de l'humanité, la mécanique expéditive qui résout tous les problèmes soulevés par le supplice de la peine de mort. Aussitôt les forçats, les ex-galériens, examine cette mécanique placée sur les confins monarchiques de l'ancien système et sur les frontières de la justice nouvelle. Ils l'appellent tout à coup l'abbaye de Mont-à-Regret. Ils étudient l'angle décrit par le couperet d'acier et trouvent, pour en peindre l'action, le verbe « faucher ». Quand on songe que le bagne se nomme le pré, vraiment ceux qui s'occupent de linguistique devraient admirer la création de ces affreux vocables, eût dit Charles Nodier. Reconnaissons d'ailleurs la haute antiquité de l'argot. Il contient un dixième de mots de la langue romane, un autre dixième de la vieille langue gauloise de Rabelais. Effondré, enfoncé. Autolondré, ennuyé. cambrioler, tout ce qui se fait dans une chambre, aubert, argent, gironde, belle, le nom d'un fleuve en languedoc, fouillouse, poche, appartiennent à la langue du XIVe et du XVe siècle. Laf, pour la vie, est de la plus haute antiquité. Troubler laf a fait les affres, d'où le mot affreux, dont la traduction est « ce qui trouble la vie », etc. 100 mots au moins de l'argot appartiennent à la langue de Panurge, qui, dans l'œuvre rabelaisienne, symbolise le peuple, car ce nom est composé de deux mots grecs qui veulent dire « celui qui fait tout ». La science change la face de la civilisation par le chemin de fer. L'argot l'a déjà nommé « le roulant vif ». Le nom de la tête, quand elle est encore sur leurs épaules, la Sorbonne, indique la source antique de cette langue dont il est question dans les romanciers les plus anciens, comme Cervantes, comme les nouveliers italiens et l'arétin. De tout temps, en effet, la fille, héroïne de tant de vieux romans, fut la protectrice, la compagne, la consolation du grec, du voleur, du tire-laine, du filou, de l'escroc. La prostitution et le vol sont deux protestations vivantes, mâles et femelles, de l'état naturel contre l'état social. Aussi les philosophes, les novateurs actuels, les humanitaires, qui ont pour queue les communistes et les fouriéristes, arrivent-ils sans s'en douter à ces deux conclusions, la prostitution et le vol. Le voleur ne met pas en question dans des livres sophistiques la propriété, l'hérédité, les garanties sociales. Il les supprime net. Pour lui, voler, c'est rentrer dans son bien. Il ne discute pas le mariage, il ne l'accuse pas, il ne demande pas, dans des utopies imprimées, ce consentement mutuel, cette alliance étroite des âmes impossible à généraliser. Il s'accouple avec une violence dont les chaînons sont incessamment resserrés par le marteau de la nécessité. Les novateurs modernes écrivent des théories pâteuses, filandreuses et nébuleuses, ou des romans philanthropiques. Mais le voleur pratique. Il est clair comme un fait, il est logique comme un coup de poing. Et quel style ! Autre observation. Le monde des filles, des voleurs et des assassins, les bagnes et les prisons, comportent une population d'environ 60 à 80 000 individus, mâles et femelles. Ce monde ne saurait être dédaigné dans la peinture de nos mœurs, dans la reproduction littérale de notre état social. La justice, la gendarmerie et la police offrent un nombre d'employés presque correspondant. N'est-ce pas étrange ? Cet antagonisme de gens qui se cherchent et qui s'évitent réciproquement constitue un immense duel, éminemment dramatique, esquissé dans cette étude. Il en est du vol et du commerce de filles publiques, comme du théâtre, de la police, de la prêtrise et de la gendarmerie. Dans ces 6 conditions, l'individu prend un caractère indélébile. Il ne peut plus être que ce qu'il est. Les stigmates du divin sacerdoce sont immuables, tout aussi bien que ceux du militaire. Il en est ainsi des autres états qui sont de fortes oppositions, des contraires dans la civilisation. Ces diagnostics violents, bizarres, singuliers, sui generis, rendent la fille publique et le voleur, l'assassin et le libéré, si faciles à reconnaître qu'ils sont pour leurs ennemis, l'espion et le gendarme, ce qu'est le gibier pour le chasseur. Ils ont des allures, des façons, un teint, des regards, une couleur, une odeur, enfin des propriétés infaillibles. De là, cette science profonde du déguisement chez les célébrités du bagne. Encore un mot sur la constitution de ce monde. Que l'abolition de la marque, l'adoucissement des pénalités et la stupide indulgence du jury rendent si menaçant. En effet, dans 20 ans, Paris sera cerné par une armée de 40 000 libérés. Le département de la Seine et ses 1 500 000 habitants étant le seul point de la France où ces malheureux puissent se cacher, Paris est pour eux ce qu'est la forêt vierge pour les animaux féroces. La haute pègre, qui est pour ce monde son faubourg Saint-Germain, son aristocratie, s'était résumée en 1816, à la suite d'une paix qui mettait tant d'existences en question, dans une association dite des grands fanandels, où se réunirent les plus célèbres chefs de bande et quelques gens hardis, alors sans aucun moyen d'existence. Ce mot de fanandel veut dire à la fois frère, ami, camarade. Tous les voleurs, les forçats, les prisonniers sont fanandels. Or, les grands fanandels, fines fleurs de la haute pègre, furent pendant 20 et quelques années la cour de cassation, l'institut, la chambre des pairs de ce peuple. Les grands fanandels eurent tous leur fortune particulière, des capitaux en commun et des mœurs à part. Ils se devaient aide et secours dans l'embarras. Ils se connaissaient. Tous d'ailleurs, au-dessus des ruses et des séductions de la police, ils eurent leur charte particulière, leurs mots de passe et de reconnaissance. Ces ducs et pairs du bagne avaient formé, de 1815 à 1819, la fameuse société des 10 000, voyez le père Goriot, ainsi nommée de la Convention en vertu de laquelle on ne pouvait jamais entreprendre une affaire où il se trouvait moins de 10 000 francs à prendre. En ce moment même, en 1829 et 1830, il se publiait des mémoires où l'état des forces de cette société, les noms de ses membres, étaient indiqués par une des célébrités de la police judiciaire. On y voyait, avec épouvante, une armée de capacités, en hommes et en femmes. Mais si formidable, si habile, si souvent heureuse, que des voleurs comme les Lévy, les Pastourelles, les Collonges, les Chimaux, âgés de 50 et de 60 ans, y sont signalés comme étant en révolte contre la société depuis leur enfance. Quel aveu d'impuissance pour la justice que l'existence de voleurs si vieux. Jacques Collin était le caissier, non seulement de la société des 10 000, mais encore des grands fanandels, les héros du bagne. De l'aveu des autorités compétentes, les bagnes ont toujours eu des capitaux. Cette bizarrerie se conçoit. Aucun vol ne se retrouve, excepté dans des cas bizarres. Les condamnés ne pouvant rien emporter avec eux au bagne, sont forcés d'avoir recours à la confiance, à la capacité, de confier leurs fonds, comme dans la société l'on se confie à une maison de banque. Primitivement, Bibi Lupin, chef de la police de sûreté depuis 10 ans, avait fait partie de l'aristocratie des grands fanandels. Sa trahison venait d'une blessure d'amour-propre. Il s'était vu constamment préférer la haute intelligence et la force prodigieuse de Trompe-la-Mort. De là l'acharnement constant de ce fameux chef de la police de sûreté contre Jacques Collin. De là provenaient aussi certains compromis entre Bibi Lupin et ses anciens camarades, dont commençaient à se préoccuper les magistrats. Donc, dans son désir de vengeance, auquel le juge d'instruction avait donné pleine carrière par la nécessité d'établir l'identité de Jacques Collin, le chef de la police de sûreté avait très habilement choisi ses aides en lançant sur le faux espagnol la pouraille, fil de soie et le biffon. Car la pouraille appartenait aux 10 000, ainsi que fil de soie. Et le biffon était un grand fanandel. La biffe, cette redoutable largue du biffon, qui se dérobe encore à toutes les recherches de la police, à la faveur de ses déguisements en femme comme il faut, était libre. Cette femme, qui sait admirablement faire la marquise, la baronne, la comtesse, à voiture et des gens. Cette espèce de Jacques Collin en jupon est la seule femme comparable à cet Asie, le bras droit de Jacques Collin. Chacun des héros du bagne est, en effet, doublé d'une femme dévouée. Les fastes judiciaires, la chronique secrète du palais, vous le diront. Aucune passion d'honnête femme, pas même celle d'une dévote pour son directeur, rien ne surpasse l'attachement de la maîtresse qui partage les périls des grands criminels. La passion est presque toujours, chez ces gens, la raison primitive de leurs audacieuses entreprises, de leurs assassinats. L'amour excessif qui les entraîne, constitutionnellement, disent les médecins, vers la femme, emploie toutes les forces morales et physiques de ces hommes énergiques. De là, l'oisiveté qui dévore les journées, car les excès en amour exigent et du repos et des repas réparateurs. De là, cette haine de tout travail qui force ces gens à recourir à des moyens rapides pour se procurer de l'argent. Néanmoins, la nécessité de vivre et de bien vivre, déjà si violente, est peu de chose en comparaison des prodigalités inspirées par la fille à qui ces généreux Médors veulent donner des bijoux, des robes, et qui, toujours gourmande, aime la bonne chère. La fille désire un châle, l'amant le vole, et la femme y voit une preuve d'amour. C'est ainsi qu'on marche au vol, qui, si l'on veut examiner le cœur humain à la loupe, sera reconnu pour un sentiment presque naturel chez l'homme. Le vol mène à l'assassinat, et l'assassinat conduit de degrés en degrés l'amant à l'échafaud. L'amour physique et déréglé de ces hommes serait donc, si l'on en croit la faculté de médecine, l'origine des 7/10 des crimes. La preuve s'en trouve toujours, d'ailleurs, frappante, palpable, à l'autopsie de l'homme exécuté. Aussi l'adoration de leur maîtresse est-elle acquise à ces monstrueux amants, épouvantail de la société. C'est ce dévouement femelle, accroupi fidèlement à la porte des prisons, toujours occupé à déjouer les ruses de l'instruction, incorruptible gardien des plus noirs secrets, qui rend tant de procès obscurs, impénétrables. Là gît la force et aussi la faiblesse du criminel. Dans le langage des filles, avoir de la probité, c'est ne manquer à aucune des lois de cet attachement. C'est donner tout son argent à l'homme enflaqué, emprisonné. C'est veiller à son bien-être, lui garder toute espèce de foi, tout entreprendre pour lui. La plus cruelle injure qu'une fille puisse jeter au front déshonoré d'une autre fille, c'est de l'accuser d'une infidélité envers un amant serré, mis en prison. Une fille, dans ce cas, est regardée comme une femme sans cœur. La Pouraille aimait passionnément une femme, comme on va le voir. Fil de Soie, philosophe égoïste, qui volait pour se faire un sort, ressemblait beaucoup à Paccard, le séide de Jacques Collin, qui s'était enfui avec Prudence Servien, riches tous deux de 750 000 francs. Ils n'avaient aucun attachement. Ils méprisaient les femmes et n'aimaient que Fil de Soie. Quant au Biffon, il tirait, comme on le sait maintenant, son surnom de son attachement à la Biffe. Or, ces trois illustrations de la haute pègre avaient des comptes à demander à Jacques Collin, comptes assez difficiles à établir. Le caissier savait seul combien d'associés survivaient, quelle était la fortune de chacun. La mortalité particulière à ces mandataires était entrée dans les calculs de Trompe-la-Mort, au moment où il résolut de manger la grenouille au profit de Lucien. En se dérobant à l'attention de ses camarades et de la police pendant 9 ans, Jacques Collin avait une presque certitude d'hériter, au terme de la charte des grands fanandels, des 2/3 de ses commettants. Ne pouvait-il pas d'ailleurs alléguer des paiements faits aux fanandels fauchés? Aucun contrôle n'atteignait enfin ce chef des grands fanandels. On se fiait absolument à lui par nécessité, car la vie de bête fauve que mènent les forçats impliquait entre les gens comme il faut de ce monde sauvage la plus haute délicatesse. Sur les 100 000 écus du délit, Jacques Collin pouvait peut-être alors se libérer avec 100 000 francs. En ce moment, comme on le voit, la Pouraille, un des créanciers de Jacques Collin, n'avait que 90 jours à vivre. Nanti d'une somme sans doute bien supérieure à celle que lui gardait son chef, la Pouraille devait d'ailleurs être assez accommodant. Un des diagnostics infaillibles auxquels les directeurs de prison et leurs agents, la police et ses aides, et même les magistrats instructeurs, reconnaissent les chevaux de retour, c'est-à-dire ceux qui ont déjà mangé les gourgades, espèce de haricots destinés à la nourriture des forçats de l'État, est leur habitude de la prison. Les récidivistes en connaissent naturellement les usages. Ils sont chez eux, ils ne s'étonnent de rien.